Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonsoir à tous. Ceux que je n'aurais pas salués ce soir, je vous propose que nous fassions une première lecture dans le livre du Deutéronome. Alors, ça fait partie des cinq premiers livres de la Bible, livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 29. Ça sera simplement un verset, tout simple. Alors, chapitre 4, verset 29. Et voilà ce que Dieu dit au peuple d'Israël, ce qui vaut pour nous également. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. En quelque sorte, Jésus reprendra cette parole dans l'Évangile quand il dira « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. » Alors, ça revient un petit peu au même. Et j'aimerais justement, sur cette pensée ce soir, donner un exemple évangélique, un exemple que nous avons donc dans la deuxième partie de la Bible, et je vous invite à ouvrir l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, chapitre 1er, et nous allons lire quelques versets tout simples, où il est question justement de cette mise en évidence, de cette détermination, de cet engagement de volonté que nous pouvons avoir, eh bien, chercher Dieu avec cette promesse, comme nous l'avons lu il y a un instant, que si nous le cherchons de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, eh bien, le résultat, c'est qu'il se laissera trouver par nous. Il se laissera tout simplement trouver, et nous pourrons, eh bien, là, eh bien, le découvrir et le connaître. Alors, j'ai dit Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 45. Je vais faire cette lecture toute simple et on y reviendra dans le commentaire. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse, dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici un Israélite, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu ?» lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Alors voilà pour notre lecture que vous connaissez, parce que je pense qu'elle est très connue, cette histoire de rencontres et de témoignages qui se suivent les uns derrière les autres, dont ce personnage qui s'appelle Nathanaël. Et si nous avions un titre à donner peut-être à notre réflexion, Nathanaël, l'homme dont le cœur est sans fraude. Ça pourrait être intéressant justement de se pencher sur ce personnage de l'histoire évangélique, parce que son histoire présente eh bien, quelque chose de particulier. Elle met en évidence les avantages. J'ai trouvé ce mot à dire, les avantages ou les bénéfices, hein, tout simplement, d'un cœur droit. Et quand un homme a un cœur droit, où il est droit de cœur, eh bien, il y a là, et nous allons le découvrir ensemble, à travers ce qui nous est dit, eh bien, c'est un cœur qui est préparé à répondre à l'appel de Dieu, à répondre au salut de Dieu. Et ça fait partie de cette lignée d'hommes que nous trouvons dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, hommes et femmes, qui lorsque Dieu eh bien, les a rencontrés ou les a appelés, ou tout simplement ceux qui dans l'Évangile ont rencontré Jésus, eh bien, ont répondu spontanément. Et ça, c'est quelque chose. Moi, je pense à Lydie, par exemple, dans le livre des Actes. Elle n'a pas cherché, comme on dit très souvent, midi à 14h pour se poser la question de ce qu'elle devait faire. Le geôlier de la prison de Philippe, c'était la même chose. Il y a également un personnage qui est très connu également dans le livre des Actes, donc le livre d'histoire de l'Église première, de l'Église primitive, c'est l'histoire du centenier. Et ils portent un nom, tous ces gens-là, ce sont des craignants Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui ont peur de Dieu, c'est des gens qui ont un grand respect de Dieu et qui croient à son existence même s'ils ne le connaissent pas. Et nous nous apercevons qu'il y a des récits formidables, des histoires qui nous sont racontées dans la Bible, où il a suffi tout simplement eh bien, qu'il y ait là, quelque part, une manifestation de cet appel de Dieu à travers les circonstances. Pour certains, c'était la maladie, pour d'autres, c'était autre chose. Et aussitôt, ces gens ont répondu spontanément. Et comme Bartimée, ils ont suivi Jésus dans le chemin. C'est-à-dire que leur cœur était déjà prêt. Leur cœur était déjà dans des dispositions qui ont fait que, quelque part, eh bien, lorsque la chose est venue, c'est-à-dire que lorsque Dieu les a interpellés, eh bien, ils ont répondu parce qu'ils étaient déjà convaincus que c'était ça, que c'était la vérité. Alors, on va parler un petit peu de ce personnage de Nathanaël. Vous savez que le nom Nathanaël, c'est un nom que l'on donne maintenant hein, aux petits garçons. C'est masculin, hein. Mais bon, il y a des petites filles qui s'appellent aussi Nathanaël. Ça veut dire don de Dieu. C'est-à-dire que qui montre bien dans sa totalité ce que Dieu fait pour les hommes, c'est une grâce, c'est une faveur et c'est un cadeau. Don de Dieu. Et vous savez, ce Nathanaël, on le retrouve nulle part dans l'histoire. Pourtant, il fait partie des 12 apôtres que Jésus a choisis, sous un autre nom. Il est nommé dans l'évangile de Matthieu le 6e, c'est-à-dire le 6e des disciples, le 6e des apôtres que Jésus a choisi pour en faire eh bien, tout simplement eh bien, ses témoins. Et il s'appelle à ce moment-là, et ça c'est une vérité reconnue par tous les commentaires bibliques, il s'appelle Barthélemy. Voilà, la Saint-Barthélemy de sinistre mémoire, hein, naturellement, mais il s'appelle Barthélemy. Alors, si on le cherche, on le reconnaîtra dans la Bible, tout simplement, non pas sous le nom de Nathanaël, mais de Barthélemy. Il nous est dit que c'était un homme qui habitait, tout simplement, eh bien, Cana. Cana, on se souvient aussi de ce qui s'était passé. Hein. Et Cana, c'est un bourg, un village qui est voisin de Nazareth. Alors, je ne sais pas quelles étaient les relations entre ces Galiléens d'un village à un autre, mais quand on entend Nathanaël dire « Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth ?» ça voulait dire qu'il y avait peut-être des relations assez tendues. Pourtant, c'était le même peuple, c'était la même province. Hein, et voilà, mais c'est écrit, hein, on l'a lu bien à l'instant. Et nous apprenons également que Nathanaël était venu, comme beaucoup de Juifs et beaucoup de Galiléens, eh bien au Jourdain, parce qu'il avait entendu dire, et il était attiré par un certain Jean qui baptisait des foules. Voilà, c'est ainsi que nous retrouvons le contexte. Quand nous recherchons, on s'aperçoit que c'était un juif, un israélite, Jésus le dira, hein, un homme vraiment avec cette aspiration de consolation et cette aspiration de vivre et de rencontrer Dieu en quelque sorte. Vous savez, il y a des gens comme ça autour de nous. Hein. Moi, je suis sûr que dans notre ville, eh bien, il y a des gens qui ont un fond, non pas religieux, mais au-delà de la religion, un fond spirituel, qui sont à la recherche de la vérité, qui aimeraient bien peut-être aller encore plus loin. Peut-être sont-ils en effet, on serrait dans un contexte religieux qui les en empêche, ou peut-être d'autres choses. Mais néanmoins, il y a au fond de leur cœur un besoin de vérité et un besoin de justice. Et Jésus les a rencontrés, ces gens-là, et il s'est toujours passé quelque chose. Alors, notre Nathanaël, eh bien, était venu certainement de Cana jusqu'au bord du Jourdain pour voir un peu cet homme qui avait un aspect quand même assez austère. Hein. Jean-Baptiste, il nous est dit qu'il avait là l'air d'un ascète, hein, et il avait peut-être à faire beaucoup plus peur que rassurer. Hein. Mais c'était un homme de Dieu, c'était le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Et Jésus dira qu'il a été le plus grand de tous les prophètes. Alors Jean, il baptisait des foules, parce que, voilà, le temps était venu, et puis les gens venaient à lui. Il ne faisait pas de miracle, Jean, mais il avait un message. Alors probablement que Nathanaël a entendu certainement le message qui était un message vigoureux de Jean-Baptiste. Hein, c'était « repentez-vous » et avec des propos qui étaient assez vigoureux, sévères même. Et pourtant les gens venaient, ils écoutaient. Alors, je pense que Nathanaël a été confronté à cela. Et une des choses que Jean-Baptiste annonçait, c'est qu'il annonçait la venue du Messie d'Israël. Voilà. Qu'il allait venir, et que depuis des siècles et des siècles, la nation, le peuple de Dieu, le peuple élu attendait, parce que ça fait partie des promesses les plus anciennes. Un Messie vous sera donné, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, nous connaissons naturellement tout cela. Alors, il a entendu tout cela, et Nathanaël était un homme de caractère scrupuleux. Vous savez, nous vivons dans un monde où aujourd'hui tout est superficiel. Et c'est dommage parce que je crois qu'il y a certainement dans, quelque part, une certaine vision des choses, de sérieux, sans se prendre au sérieux, mais de sérieux, eh bien, certainement quelque chose à tirer. C'était un homme donc qui avait ce caractère de scrupulosité et un homme qui ne se laissait pas arrêter par les premières impressions. Parce que si on regarde peut-être et si on fonctionne qu'avec nos premières impressions, elles peuvent être favorables, elles peuvent être bonnes, mais quelquefois elles peuvent être trompeuses. Parce qu'on se dit, et moi peut-être le premier, j'aurais rencontré un Jean-Baptiste qui était vêtu d'un vêtement de poil de chèvre, je crois, ou de chameau, il nous est dit avec une ceinture de cuir. Moi j'aurais dit, cet homme-là, il ne me convient pas. Hein. Ben, il me fait peur et j'aurais certainement pas, je ne serais pas resté auprès de lui. Les premières impressions. Et peut-être il y a des amis qui viennent nous rejoindre dans nos cultes, dans nos réunions de prière ou dans nos réunions d'évangélisation, qui ont une première impression. Mais si elles sont bonnes, eh bien conservez-les. Mais quelquefois, lorsqu'elles nous semblent peut-être pas aller dans notre sens, méfions-nous parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'était un homme qui a voulu approfondir les impressions, la première impression de ce contact avec Jean-Baptiste. Et là, à ce moment-là, il s'interroge sur l'exactitude de ce qu'il entend. Il se dit, mais est-ce que c'est vrai? Un Messie, depuis des siècles et des siècles, Israël attend un Messie. Il y en a eu, mais c'était des faux. Mais celui-ci, qu'est-il? Comment va-t-il se présenter? Il y a quelqu'un qui se dit être le précurseur de ce Messie. C'est Jean, Jean le Baptiste. Et il nous parle, et il nous dit de préparer le chemin au Seigneur. Il nous demande de réformer notre vie, de nous convertir, d'abandonner les choses qui sont mauvaises. Ce sont des impressions, ce sont des messages qui arrivent. Et il était en train de réfléchir à tout cela. Et il se dit, mais si je me fais baptiser, parce que les gens se faisaient baptiser en foule par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et il se dit, mais si je me fais baptiser, c'est que véritablement, eh bien, je m'engagerai. Et à ce moment-là, ensuite, je serai prêt, tout simplement, à suivre le Messie qui est annoncé. Je crois que c'était les intentions de Nathanaël. Il ne voulait pas faire les choses à moitié. Il ne voulait pas les commencer et ne pas les finir. Il voulait les débuter, mais sur de bonnes bases. Et vous savez, je crois que le meilleur moyen pour entretenir notre foi, une foi durable, une foi pérenne, c'est de commencer sur des bases que nous enseigne la parole de Dieu et l'Évangile. Eh oui. Et non pas des sentiments, non pas de l'affectivité uniquement, non pas des pressentiments et des ressentiments. Enfin, on pourra marquer tout ce qui peut finalement, eh bien, être là au fond de notre cœur et de nos pensées. Alors Nathanaël ne veut pas faire les choses à la légère, et c'est ça le caractère de cet homme, c'est ça ce qui est important. Vous savez, dans le monde du travail, il y a des gens qui travaillent bien, parce qu'ils ont le sens de la profession qu'ils exercent, et ils ne vont pas faire les choses à moitié. Et c'est ainsi que finalement, tout apprentissage ou toute étude en vue d'exercer une profession, eh bien, tente à amener les gens à avoir une conscience professionnelle. Hein, aujourd'hui, c'est de la productivité, il faut aller vite, et puis même si la qualité n'y est pas, mais c'est ça. Mais bon, toujours est-il que ça n'empêche pas que nous puissions avoir, dans le domaine de notre vie sociale, mais particulièrement dans notre vie morale et dans notre vie spirituelle, le souci des choses qui soient bien faites. Et je crois que Dieu bénit si nous avons ces sentiments. Et cet homme avait ce caractère-là. Pour l'heure, nous le retrouvons, Nathanaël, il est assis à l'ombre d'un figuier. Oui, parce que dans ces pays, eh bien, il fait très chaud. Et nous voyons qu'il est en train de réfléchir sur tout ce qu'il a entendu. Ce Jean-Baptiste qui parle, ce Jean-Baptiste qui cite des textes des prophètes anciens de l'Ancien Testament. Et Il est en train de réfléchir à tout cela. C'est un petit peu... là, eh bien, il sonde sa conscience en disant, mais quelle décision je vais prendre? Il réfléchit. Vous savez, c'est un petit peu l'écho que Jésus nous en laisse quand, dans l'évangile de Luc, Jésus nous dira, mais si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et il est semblable à un homme qui veut construire une maison ou une tour. Alors il réfléchit, il pense, il en calcule la dépense, parce que à quoi bon commencer si on ne finit pas? Et c'est très pertinent tout cela. Et je pense que c'est ça ce qui se passe dans les préoccupations de Nathanaël. Alors, Jésus va l'interpeller à ce moment précis, comme ce sera le cas plus tard, tout simplement d'un autre homme rencontré, qui s'appelle Zachée de Jéricho, et lui, pareil, il est dissimulé dans le feuillage d'un sycomore, comme quoi, hein, montez dans les arbres et vous rencontrerez le Seigneur. Non mais c'est vrai, regardez, je suis en train de faire le rapprochement entre Zachée, monté dans son sycomore, et puis également Nathanaël. Oui, c'est à l'ombre, hein. C'est à l'ombre de tes ailes. Hein. Vous connaissez, c'est à l'ombre là, du figuier ou du sycomore, mais peu importe, ce sont des choses qui ont une importance très limitée. Et puis nous l'avons lu, Philippe rencontra Nathanaël. Philippe était l'ami de Nathanaël. Et quand on a des amis et que l'on connaît qui est Jésus, que l'on connaît le bonheur du salut, ce poids qui nous est enlevé par le pardon de nos péchés, alors à ce moment-là, on fait connaître à d'autres. Tout le monde ne sera pas d'accord pour entendre ce que nous avons à dire. Peut-être nos plus proches amis seront des détracteurs, seront peut-être et deviendront des adversaires, mais néanmoins, c'est ce qui se passe. Philippe rencontre Nathanaël et il lui a dit, tout simplement, il lui a parlé. Il va lui rendre témoignage et lui dit ces paroles que nous avons au verset 45. « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Alors je vous ai dit que Nathanaël était de Cana. Il y avait à Nazareth un charpentier, vous connaissez l'histoire, qui s'appelait Joseph. Et qu'est-ce que cette famille avait fait parler dans toute la région de la Galilée? Parce qu'il y avait le fils aîné, qui était né d'une manière assez bizarre, et qui là, eh bien, grandissait au milieu des siens, au milieu des villageois, au milieu de la population de Nazareth. Mais je pense que s'il s'est cité « fils de Joseph », c'est que pour Nathanaël, ça voulait dire quelque chose. Et nous voyons qu'il va lui montrer comme un élément supplémentaire pour l'amener à croire. Et il dira, mais nous avons trouvé. Ah, trouver Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Trouver le Seigneur, trouver la foi, trouver la paix, trouver la joie, trouver le salut, trouver l'assurance de la vie éternelle. Nous avons trouvé. Tout cela, c'est contenu dans un seul nom, c'est le nom de Jésus. Celui dont Moïse a écrit dans les prophètes, et dont les anciens, eh bien, nous ont rapporté finalement, eh bien, là, la prédiction. Pour convaincre un juif comme Nathanaël, il fallait revenir à Moïse. Hein. Il fallait revenir à l'Écriture. Il fallait baser, finalement, les arguments pour convaincre un homme, peut-être têtu comme Nathanaël, sur ce qu'il connaissait bien, et ce qui était pour lui une référence dans sa vie spirituelle, dans sa foi d'Israélite. Alors, les choses sont ainsi. Nous avons trouvé donc Jésus de Nazareth. Eh oui. Et aussitôt, Nathanaël va répondre à son ami Philippe, il va lui dire, mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Je l'ai dit tout à l'heure, pour montrer qu'il ne devait pas y avoir des relations, certainement pas. Vous savez, aujourd'hui ça se fait moins, parce que bon, avec les moyens de communication, internet, téléphone, etc. Mais vous savez, dans l'ancien temps, dans les villages, hein, quelquefois il y avait un peu de bisbille, hein, parce que bon, je ne sais pas, il y avait ceci et cela, je ne saurais le dire, mais quelquefois... voilà, on connaissait bien les gens, et c'était quelquefois de bonnes relations, mais parfois peut-être un peu plus difficile. Et vous imaginez Nathanaël qui va hausser les épaules, vous l'imaginez comme ça. Il dira, mais tu es en train de me dire que le Messie va naître, enfin est né, et c'est lui qui est né là dans notre bourgade, enfin né, ou il a grandi dans notre bourgade de Nazareth. Mais est-ce qu'il vraiment, il peut-il y arriver quelque chose de bien, qui sorte finalement bourg perdu, hein, que l'on appelle Nazareth. Et on peut s'imaginer un petit peu la réaction de Nathanaël. Nathanaël, dans un premier temps, il a un doute. Je voudrais le rappeler ce soir, le doute, il est négatif ou il est positif. Tout dépend de la position que nous prenons. Tout dépend de ce que nous voulons et ce que nous entendons. Si nous nous laissons envahir par le doute, il va nous tuer. Il va nous amener à tomber plus bas. Mais si nous surmontons et nous sommes victorieux du doute, alors à ce moment-là, il va nous faire rentrer dans une autre dimension de foi et d'assurance. Et là, il a un doute. Et c'est un penchant naturel à tous les âmes, à tous les hommes, pardon, à juger défavorablement ce que nous ne connaissons pas encore. Vous savez, l'étrange ou l'étranger, celui qui n'habite pas dans notre village ou dans notre ville, celui qui ne parle pas la même langue, qui n'est pas de la même couleur que de peau que nous, celui qui n'a pas la même religion, c'est quand même un étrange personnage. On appelle ça un étranger, naturellement. Et souvent, notre façon de penser, à tort, quelquefois à raison, mais je voudrais croire que quelquefois c'est aussi souvent à tort, parce qu'on ne connaît pas bien, parce qu'on ne sait pas, souvent nous avons des jugements qui sont des jugements arbitraires, des jugements précipités sans que nous connaissions. Et c'est certainement ce qui se passe. Parce qu'il suffit de dire que Jésus, le Messie, vient de Nazareth, alors il ne veut plus en entendre parler, Nathanaël. Il se dit, c'est pas possible, ça ne peut pas être ça. Et nous voyons que, néanmoins, il va surmonter ce premier obstacle du doute qui l'envahit à ce qu'il entend, car chez Nathanaël, chez lui, le désir de savoir la vérité l'emporte sur tout le reste. C'est ça ce qui est intéressant. C'est pour ça que Jésus dira, voilà un homme dont le cœur est sans fraude. Ouais. Qu'est-ce qui occupe notre cœur? Qu'est-ce qui remplit notre âme et nos pensées? Est-ce que ce sont les choses négatives, expériences peut-être négatives, qui nous ont marquées, qui nous laissent des séquelles, et quelquefois des cicatrices? Ou est-ce que nous sommes enclins à faire confiance à ce qui nous est dit, à la vérité qui est annoncée? Et chez Nathanaël, eh bien, néanmoins, malgré qu'il ait un recul et un doute très fort, alors à ce moment-là, eh bien, il a envie de savoir quand même. Ça s'appelle une bonne curiosité, je dirais même une saine curiosité. Alors Philippe va faire valoir l'argument qui va tout changer. Il va lui dire, viens et vois. Vous savez que nous sommes devant une leçon d'évangélisation, là. Le savoir évangéliser. Viens et vois. Moi, j'ai envie de crier à tous les gens qui sont autour de moi, viens et vois. Parce que c'est fort, ce mot. Il y a deux mots, il y a trois mots. Viens, fais le déplacement. Prends la peine ou l'effort pour constater toi-même et tu le verras de ses yeux, et avec ce que tu verras, ce que tu vivras et ce que tu connaîtras, alors à ce moment-là, tu seras convaincu. C'est ça l'évangile. Quand Jésus a fait son apparition parmi les hommes il y a 20 siècles, qu'est-ce que c'était? C'était le viens et vois. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire de voir Jésus parce qu'il est ressuscité, il est dans le ciel, il revient bientôt, comme nous l'avons chanté. Mais une chose qui est certaine, c'est que les hommes, même les aveugles le voyaient. C'est pour vous dire, extraordinaire. Les gens venaient en foule, ils voyaient qui était Jésus, ils touchaient Jésus. Pour les malades, ils étaient guéris. Les sourds, eh bien là, entendaient. Les muets parlaient, les paralytiques marchaient. Les aveugles le voyaient. Viens et vois. Et alors à ce moment-là, c'est sans contestation possible, puisque c'est nous-mêmes qui allons déclarer, qui nous allons faire notre propre opinion, qui va devenir une conviction, tout simplement. Viens et vois. Ce qui permet à ce moment-là à Nathanaël, l'homme dont le cœur est droit et honnête, d'atteindre tout simplement la vérité qu'il cherche. Je voudrais le répéter ce soir. S'il y a un espace dans notre cœur où il y a cette soif et cette faim de vérité, alors à ce moment-là, Dieu est prêt à venir jusqu'à nous et de nous montrer qu'est-ce que la vérité. Vous vous souviendrez toujours quand Jésus a été, au moment de la Pâque, traduit devant le procureur de l'Empire qui s'appelait Pilate. Jésus lui a dit, mais quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ça passe par une écoute et ensuite ça se transforme dans notre cœur par la foi. Il écoute, il obéit, il croit. Et Pilate, un petit peu comme Nathanaël, mais lui n'a pas été aussi loin que Nathanaël, dira, mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Moi, je suis tout à fait convaincu qu'il y a certainement autour de nous des milliers de gens, je suis large, mais qui se posent la question sur la vérité. Dans un monde où il y a, hélas, malheureusement, trop d'informations qui sont mensongères et qui confondent les gens, qui se disent, mais alors, en qui croire, à qui faire confiance? Et pourtant, la vérité, elle existe. La vérité entre les hommes, elle existe. Elle doit exister. La vérité de Dieu, elle nous a été révélée à travers la Bible, le message biblique et à travers la personne de Jésus-Christ. C'est la vérité. Jésus dira dans la prière qu'il fait monter vers son Père, dans l'évangile de Jean, il dira ceci, mais ta parole est la vérité. Alors, si nous avons ce petit espace où il y a marqué vérité dans notre cœur, eh bien, si nous le cherchons, si nous la cherchons, cette vérité, Dieu nous dit, mais je me laisserai trouver. Aucun problème. Mais il faut aimer la vérité. Il faut avoir l'amour de la vérité. Alors, Nathanaël va venir, et il va voir par lui-même et se faire une idée, plus qu'une idée, une opinion, plus qu'une opinion, il va se faire une conviction quand il va être en face de Jésus. Nous avons rencontré Jésus. Vous comprenez ce que ça veut dire? Moi, je ne l'ai pas vu, vous ne l'avez pas vu, mais je l'ai rencontré à un moment donné de mon existence et de ma vie, et il a transformé ma vie, parce que il m'a appelé, j'ai cru en lui, et il a fait de grandes choses pendant mon existence. J'ai vu, viens et vois. Jésus dira de lui, cette belle louange au verset 45, que je relis, que je replace devant vous, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. Vraiment, avec un cœur droit, avec de la rectitude au fond de son âme, dans ses pensées, au plus profond de lui-même, sans fraude. Ça ne voulait pas dire que Nathanaël était sans péché, qu'il n'avait pas ses défauts. Mais malgré ses défauts et malgré peut-être toutes les lacunes et les carences qu'il pouvait avoir, quand c'était blanc, quand c'était noir, c'était noir. Et c'est ça ce qui fait que, c'est ça ce qui plaît à Dieu. Que nous ne soyons pas batifolés sur une ligne médiane en disant un petit peu à droite, un petit peu à gauche, mais si véritablement, dans notre esprit, nous sommes déterminés à être vrais, alors à ce moment-là, eh bien, qu'il n'y a pas de fraude, qu'il n'y a pas de faux fuyants, qu'il n'y a pas toutes ces choses, alors un homme sans détour, on peut le dire, un homme sans prétexte, un homme également ou qui ne cherche pas d'échappatoire, ce qui fait penser qu'il y a deux sortes, deux catégories d'hommes dans cette humanité, face à l'appel de Dieu, et face à la vérité, et face à son salut. Il y a soit ceux qui fuient, parce que la vérité les dérange, ou les embarrasse, et puis il y a ceux qui vont regarder la réalité de ce qui est vrai en face. Et Jésus dira, voilà, vraiment, un vrai Israélite, c'est-à-dire, comme Jésus le dira dans d'autres situations, et notamment pour souligner la foi de certains et de certaines, Jésus dira, mais tout simplement, voici dans la personne de Nathanaël un authentique fils d'Abraham. Parce qu'Abraham se caractérisait par une chose, le grand Abraham de la Bible, père de la nation et père de toutes les nations de la terre, c'est que c'était un homme qui avait le sens de la rectitude, et de la droiture de cœur, et il a été l'homme de la foi. D'ailleurs, la Bible l'appelle le père des croyants, parce qu'il avait fait tout simplement confiance en Dieu, sans voir Dieu. Tout simplement. Il a marché comme ça à l'aveugle, et il a fait confiance, il n'a pas été déçu. Dieu lui a donné une bénédiction et des bénédictions qui nous retombent, qui nous reviennent encore, puisqu'il dit, tu seras une bénédiction pour toutes les nations et tous les peuples de la terre, pour tous ceux qui croient, naturellement tous ceux qui ont la foi. Alors il y a les fils d'Abraham, comme Nathanaël, et puis il y a les fils qui sont les autres, qui sont les descendants de Jacob, par exemple. Jacob le tortueux, Jacob l'intrigant, Jacob, avant de se convertir, avant de devenir et de porter le nom d'Israël, était un homme menteur, qui piégeait les autres. Alors il y a ceux qui, justement, ne sont pas droits de cœur. Et Jacob est la caractéristique, finalement, eh bien, de ce monde-là, de ce type d'homme-là. Mais heureusement pour Jacob, à un moment donné, il a fait une expérience, il a rencontré Dieu, et à partir de ce moment-là, eh bien, son chemin, sa voie, son cœur n'a plus dévié. Comme quoi on peut se convertir. Comme quoi notre vie peut être changée par Dieu. Si l'on ne peut pas la changer nous-mêmes, en tous les cas, Dieu peut la changer si nous le désirons, si nous le recherchons de tout notre cœur et de toute notre âme. Alors, les deux autres, cette autre catégorie, eh bien, ce sont tout simplement les héritiers des Juifs orgueilleux que nous trouvons dans l'Évangile, les pharisiens, lesquels, par leur incrédulité et tout simplement par leur propre justice, avaient, comme nous le dit le texte de la Bible, dans le message de Jean-Baptiste, rendu nul et inutile à leur égard le plan de salut de Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais voulu croire, parce qu'ils n'ont jamais voulu obéir, et n'ont jamais voulu finalement, eh bien, aimer Dieu et le rechercher de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée et de toute leur force. Ce sont des textes bibliques que je cite, hein, je ne les ai pas inventés. Ces mêmes réfractaires ou ces mêmes ambitieux qui vont décider à un moment donné et qui vont exiger le crucifixion de Jésus. Parce que figurez-vous, vous savez, qui c'est qui a crucifié Jésus? Ce n'est pas le petit peuple, ce n'est pas les pauvres gens, c'est principalement les autorités religieuses. Ah, ça, c'est étonnant. Hein, c'est eux qui ont crié en disant « Mais crucifie cet homme, c'est un imposteur, ce Jésus de Nazareth, il doit mourir !» C'est quand même curieux, donc, on peut être religieux sans être converti. On peut être religieux sans aimer la vérité. On peut être religieux en haïssant la justice. On peut être religieux tout en, finalement, eh bien, faire de Jésus ce que l'on veut. Parce que ce qui est important, ce n'est pas d'être religieux, c'est d'être spirituel. C'est d'être un homme ou une femme rempli du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est autre chose. Naître de nouveau. Alors, Philippe dira, et je reviens et je vais terminer d'ici un instant, Jésus, Philippe dira, tout simplement à Nathanaël, en ce qui concerne Jésus, viens et vois. Mais ça nous rapporte, ça nous ramène à nous-mêmes. Confrontés à la vérité de Jésus, confrontés aux promesses de la Bible qui nous parle de Jésus, selon nos besoins, selon nos aspirations, qu'est-ce que je vais faire de Jésus? Et parce que Nathanaël est droit et qu'il a une âme probe, pure, on pourrait dire, alors il s'écrit, ces paroles que nous avons lues tout à l'heure, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Quelle confession, imaginez-vous? Pour un homme qui était parti en train de patauger dans ses doutes, d'en arriver finalement eh bien, à confesser. Ça, c'est formidable. Jésus comme le Messie d'Israël, le roi d'Israël, le fils de David, Messie d'Israël. Il y en a eu d'autres comme ça, hein, la Samaritaine par exemple. « Je sais que tu es le fils de Dieu », elle dira. Il y a également, en effet, d'autres qui prononceront, je pense à Thomas par exemple. Oui, Thomas dira « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors, c'est pour nous dire que quelquefois, Nathanaël, Thomas, et puis la Samaritaine, quelquefois nous nous débattons dans nos doutes, dans tout ce qui peut quelque part nous amener à avoir des préjugés contre Dieu, contre Jésus. Et à un moment donné, si nous voulons vraiment engager notre cœur, notre pensée, notre force et notre âme à rechercher Dieu, et c'est Dieu qui va nous donner le coup de main pour nous amener finalement à la pleine conviction, à une véritable assurance que Jésus est Dieu, que Jésus est le Messie d'Israël, qu'il est le sauveur du monde et qu'il est le rédempteur de la terre entière. C'est ça, ça vient, ça monte, ça se développe. Mais dans la mesure où nous l'avons lu, si tu me cherches de tout ton cœur et de toute ton âme, je me laisserai trouver par toi. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Vous avez remarqué, Nathanaël n'a pas vu de grand miracle. Il n'a pas été l'objet dans son corps, parce qu'il aurait été malade, d'une guérison. C'est son cœur qui, finalement, a été le siège du miracle de Dieu. Comme aujourd'hui encore, il y a des milliers et des milliers de gens qui se convertissent à Jésus-Christ, qui viennent à Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, et le seul miracle n'est pas visible, il est invisible, mais il est au niveau du cœur. Et pourquoi? Tout simplement. Pourquoi? Parce que dès cette première rencontre, Nathanaël a été conquis, il a été bouleversé par la vérité. Viens et vois. Là, il a trouvé, il a touché la vérité. Et il sera bientôt intégré parmi les 12 disciples. Alors qu'est-ce qu'il a fait après? On ne sait pas s'il est devenu un grand apôtre. La Bible ne nous en parle pas. Mais néanmoins, je pense qu'il a dû travailler. Et je ne veux pas me référer à la tradition ancienne qui ont exagéré et en ont fait des personnages légendaires. Et moi, je pense que c'était un témoin de Jésus-Christ. C'était un homme qui était un ambassadeur du royaume de Dieu. Mais moi, je crois qu'en tous les cas, s'il a dit quelque chose après, s'il a rempli une fonction que Dieu l'avait appelée, il a dû certainement prêcher que pour s'approcher de Dieu, il faut être droit de cœur. Il faut aimer la vérité et il faut qu'il n'y ait aucune fraude à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, si parfois nous trouvons le chemin difficile, ouais. Si parfois la voie du salut est compliquée pour les uns et pour les autres, si parfois nous sommes découragés, parce que ça peut arriver, c'est très humain, est-ce que nous sommes sûrs d'avoir un cœur sans fraude? Est-ce que nous sommes aussi sûrs d'entretenir quelques mauvais préjugés qui nous aveuglent et qui nous voilent la vérité? Est-ce que nous sommes sûrs de ne pas tergiverser quand l'appel retentit où Dieu nous dit « Viens et vois ». Eh oui, viens et vois. J'aimerais simplement terminer par ce texte que nous avons lu et un suivant brièvement. Quand il est dit ceci, je le relis dans cette parole, chapitre 28, verset 30, alors que je retrouve, voilà, non, Deutéronome 4, excusez-moi, je suis en train de me mélanger, enfin, je vais pouvoir le citer quand même de mémoire, parce que je ne l'ai pas oublié, hein, mais si tu me cherches de tout ton cœur et de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, eh bien Dieu nous fait la promesse qu'il nous laissera, qu'il se laissera trouver, que nous le rencontrerons. Et puis dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, c'est là où j'avais peut-être une petite confusion dans les textes, il est dit ceci, et je termine sur cette parole, « Celui qui marche dans l'intégrité, figurez-vous, qu'est-ce qu'il y a après ? Écoutez bien, « Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. » C'est bien le cas de Nathanaël. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Je répète une dernière fois, celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses, tombe dans l'une d'elles. Alors, on va pas retenir la deuxième, et la première proposition, c'est que Dieu nous demande d'être vrai. Vous savez, il y a des années, je me souviens toujours de ce petit cantique qu'on chantait dans les camps de jeunesse quand on était dans les Alpes, et il était dit ceci, c'est une prière et un cantique. Rends-moi vrai, Seigneur, rends-moi vrai, parce que j'ai un prix à remporter, j'ai une victoire à gagner. Seigneur, rends-moi vrai, que le Seigneur nous donne d'être vrai. Et ce sera la voie du salut et la bénédiction sur notre vie. Et nous ferons la même expérience que Nathanaël. Nous trouverons le Seigneur et nous le découvrirons à la fois comme le Sauveur de nos âmes et le Seigneur de notre vie. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et nous te remercions parce qu'il y a tel ou tel personnage biblique qui parle tantôt aux uns, tantôt aux autres. Alors c'est vrai, Seigneur. Nous voulons croire que dans cette prédication qui a été souvent, Seigneur, annoncée à travers les siècles, où ce personnage, Nathanaël Barthélemy, eh bien, Seigneur, a été présenté comme toi tu l'as reconnu, comme toi tu en as fait la louange, un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Eh bien, Seigneur, nous voulons croire en effet que dans tout cela, eh bien, il y a des hommes autour de nous qui aiment, qui sont en recherche, qui aspirent à la vérité. Eh bien, Seigneur, donne-leur cet amour de la vérité. Et à un moment ou à un autre, parce que leur cœur est honnête, même s'ils ne sont pas exempts du péché, mais leur cœur est honnête. Ce qui est blanc est blanc, ce qui est noir, ce qui est vrai est vrai, ce qui est faux. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, donne-nous, comme nous l'avons lu tout à l'heure, de ne pas marcher, en effet, dans deux choses à la fois, mais que nous prenions possession, que nous prenions position, Seigneur, en effet, et qu'ainsi, Seigneur, eh bien, la voie du salut, de ta grâce, de ta bénédiction, de l'éternité nous est offerte, et nous te remercions et nous te bénissons. Oui, Seigneur, rends-moi vrai, parce que j'ai un prix à remporter et j'ai une victoire à gagner. Seigneur Jésus, ma prière, c'est que tu me rendes vrai. Merci, Jésus. Bénis ses amis, bénis nos amis, accorde-leur ta grâce, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, Retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.